Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 26 juillet 2018. C'est Marie Lalande qui vous parle. Maintenant devant le micro, ça va toujours mieux. Avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique Kirouac.
Bonjour Marie.
Bonjour. Yvan Deslauriers.
Bonjour Marie.
Et on a un invité surprise aujourd'hui, Francis Marin.
Bonjour.
Bonjour. Et toujours en régie, Maurice Bolduc. Bonjour Maurice.
Allô, allô.
Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous nous présentez ce matin?
Bon, ben alors moi je commence par un article qui fait l'hypothèse qu'on fermerait des rues autour des écoles. Ah là, oui? Les gens vont dire, oh mon Dieu, une autre idée ben de oui. fou, là. Mais c'est un projet pilote en Autriche.
En Autriche.
Mais peut-être ça pourrait venir.
Ça pourrait peut-être venir chez nous et oui. dans un deuxième
temps. Deuxième temps, j'avais pensé à quelque chose que j'utiliserai une autre fois parce que ce matin, j'ai lu un article en me levant, puis c'est ça que je vais vous présenter. Ça parle d'un ballon en Beauce.
Ah bon? Intéressant.
Voilà.
Monique?
Eh bien, d'abord, une chose très importante, se laver les mains.
Hein? Toujours.
C'est important.
Il aurait fallu que tu nous le dises tantôt.
Oui, c'est ça, avant de rentrer en studio. Mais en fait, dans le milieu de la santé, on connaît l'importance du lavage des mains qui peut avoir des conséquences sur des infections potentielles. Alors, c'est un article qui fait état des recherches sur la meilleure stratégie d'implantation, en fait, de cette hygiène procédure. Dans les milieux de la santé. Mm-hmm. Et ensuite, dans un second temps, alors on change complètement je dirais, d'environnement, et on s'en va dans les airs. Alors, les avions, est-ce que c'est mieux que ce soit des pilotes ou des drones-machines qui contrôlent l'avion? Et
question.
En complément, un petit article sur ces traînées que font les avions dans le ciel.
Ouais.
Ah oui!
L'explication, peut-être, de ce que c'est.
Ah. Ça, peut-être.
On verra. Un peu de suspense quand même, Yvan.
Alors, de mon côté, moi, je vais vous présenter d'abord deux courts textes. Le premier à propos des élections du 1er octobre. Et oui, déjà, mais pour les enfants. Et le second court texte, c'est la réflexion d'un papa suite à une conversation qu'il a eue avec son fils de 6 ans. Et dans la seconde partie d'émission, je vais vous lire un texte plutôt léger à propos d'une sérieuse recherche, c'est vrai, menée à Harvard.
Ah oui, ça c'est sérieux.
C'est sérieux.
Je peux en témoigner.
Sur les bienfaits du ménage, les effets du ménage sur la réussite des élèves. Alors voilà, on est parti. On commence. Alors, Monique, parlons hygiène des mains.
Parlons hygiène des mains. Alors, sous la plume de Martin Lassalle, pour le journal Forum du 11 juillet dernier, l'article s'intitule « Hygiène des mains chez les professionnels de la santé, une affaire de perception ». Alors, plus la prévention des infections nosocomiales est perçue comme étant l'affaire de tous, plus les professionnels de la santé portent attention à l'hygiène des mains, selon une étude de l'UdeM. Alors, c'est lorsqu'ils perçoivent que leur milieu hospitalier promeut et met en œuvre une culture collaborative de la prévention des infections nosocomiales que le professionnel de la santé pose des gestes qui contribuent à réduire la fréquence de ces infections, comme se laver fréquemment les mains. C'est ce qui ressort d'une étude qui a été menée par Laurence Bernard, qui est une professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l'UdeM et une équipe de chercheurs qui ont évalué l'effet de 3 cultures de prévention du risque des infections en milieu hospitalier sur les pratiques du personnel soignant à l'égard de l'hygiène des mains. Donc, la littérature révèle 3 cultures organisationnelles relatives à la prévention des infections en milieu hospitalier. Soit, alors prenez note, la culture individuelle, la deuxième, hiérarchique, et la troisième, collaborative.
OK.
Alors, dans une culture individuelle, que se passe-t-il?
Chacun pour soi.
Chacun pour soi. Donc, les professionnels de la santé perçoivent la sécurité des patients sous l'angle des pratiques qu'ils peuvent personnellement adopter pour éviter la propagation des infections nosocomiales. Je suis assez contente de réussir à chaque fois à bien prononcer ce mot.
Mot-là.
Et à ne pas inverser, à faire un petit peu de dyslexie. Bon. Aux soins d'une organisation où la culture est hiérarchique, ils ont la perception que les risques découlent d'un défaut de conformité vis-à-vis des standards de contrôle et de prévention des infections. On qualifie aussi cette culture d'incriminante. On est criminel parce qu'on ne se lave pas les mains.
Non, mais si on ne le fait pas, on est coupable.
Exactement. Enfin, dans la culture collaborative, la perception de la sécurité des patients repose sur l'opérationnalisation systémique d'un programme de prévention où tous les acteurs, personnel soignant, patients, employés d'entretien et visiteurs aussi, ont un rôle à jouer. Ce rôle étant expliqué et compris de tous dans un effort commun. Vous comprenez, vous devinez un petit peu à mon enthousiasme
que c'est celui vers lequel tu penses.
Ben, c'est pas moi, là, c'est la recherche, mais bon. Pour valider l'effet de ces trois approches de prévention sur le taux d'observance des règles quant à l'hygiène des mains, Laurence Bernard et ses collègues ont évalué par sondage la perception de la culture de prévention auprès de 4430 professionnels de la santé dans trois hôpitaux.
Bon échantillon.
Un bon échantillonnage, oui. Ils ont aussi effectué des observations sur le terrain pour mesurer jusqu'à quel point les mesures en matière d'hygiène des mains étaient respectées. Les établissements visés étaient un hôpital belge, là, on prônait la culture individuelle, et deux hôpitaux québécois, l'un ayant une culture hiérarchique et l'autre une culture collaborative. Ainsi, le taux d'observance relative à l'hygiène des mains était de 35 % là où une culture de prévention était perçue comme individuelle.
Okay.
Et de 53 % lorsque la culture était jugée comme hiérarchique. C'est quand les professionnels de la santé percevaient une culture collaborative que le taux a été le plus élevé, soit de 77 %.
Ah, y a rien.
Oui, alors on voit que l'individu, il ne s'autocritique pas.
Non.
Le hiérarchique, ben, s'il a peur, il réagit un petit peu mieux.
Ouais.
Et là, effet de système, eh bien, 77 %.
Ouais.
Dans ce dernier cas, c'est pratiquement le seuil d'observance considéré comme idéal aux États-Unis qui se situe à 80 %. Généralement, ce taux idéal varie entre 50 et 80 % dans les hôpitaux canadiens. Et il est rare qu'on atteigne le 100 %. Les données indiquent que lorsque l'on sent qu'il y a un esprit d'équipe en ce qui concerne la sécurité des patients et la prévention des infections nosocomiales, la gestion du risque devient plus collective et agit de façon plus responsable, nous dit toujours la chercheure. Et cette co-responsabilité a des effets positifs à la fois sur la gestion du risque et la supervision et le contrôle des opérations de prévention, l'apprentissage et le transfert des connaissances, le leadership et enfin la sécurité des patients, ce qui est quand même le cœur de l'histoire, dans les unités et au sein de l'établissement dans son ensemble. Bien que les résultats de l'étude ne soient pas nécessairement représentatifs du taux d'observance des mesures propres à l'hygiène des mains dans l'ensemble des centres hospitaliers, cette question demeure un enjeu préoccupant à l'échelle mondiale. De fait, l'hygiène des mains est la façon la plus efficace et la moins coûteuse de se protéger contre les infections. Les mains contaminées peuvent propager 80 % des infections courantes selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. À l'échelle mondiale, d'ailleurs, l'OMS évalue que sur 100 patients hospitalisés, au moins 7 dans les pays à revenus élevés et 10 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires vont contracter une infection nosocomiale. On est là pour être soigné, mais on attrapera cette infection.
Mm-hmm.
Au Canada, environ 8 000 Canadiens meurent des suites d'une infection nosocomiale et 220 000 autres en sont atteints. Au Québec, de 80 000 à 90 000 personnes souffrent d'une infection nosocomiale, soit l'équivalent de 10 % des admissions en milieu hospitalier. Pour Laurence Bernard, l'implantation d'une culture collaborative pour ce qui est de la prévention des infections, doit surtout donc reposer sur le leadership et l'engagement des dirigeants d'hôpitaux. Alors, dans les milieux où la question de la sécurité est traitée comme une priorité, il y a des moyens mis en place qui se traduisent par des programmes et des interventions de prévention, et c'est souvent ce qui fait défaut. Le principal problème aussi, c'est le manque de ressources et le manque de temps. Également, la formation constitue aussi un maillon à renforcer. Ces notions ne sont pas assez communiquées et adaptées aux professionnels de la santé afin de promouvoir non seulement l'hygiène des mains, mais plus largement un esprit organisationnel et collaboratif. Mm-hmm. Alors, je nous invite à nous laver les mains continuellement. C'était donc un article de Martin Lassalle pour le journal Forum du 11 juillet 2018.
Merci, Monique. Alors, pour la première fois, les enfants pourront voter le 1er octobre.
Oui.
Oui. C'est un texte de Magdalene Boutros, publié par la presse canadienne le 21 juillet. Mm-hmm. Alors, le 1er octobre prochain, on va aller voter, en principe, pour les élections au Québec. Mm-hmm. Et des petits bureaux de vote seront aménagés dans toutes les circonscriptions du Québec pour permettre aux enfants de s'initier à la vie démocratique. Selon Élections Québec, il s'agirait du premier projet du genre à voir le jour sur l'échiquier planétaire.
Wow! On doit être impressionnés.
Ouais. Tous les petits Québécois seront donc invités à accompagner leurs parents au bureau de scrutin le 1er octobre prochain. Sur place, un isoloir spécialement conçu pour les enfants les attendra. Un bulletin de vote leur sera remis. Les enfants ne seront toutefois pas appelés à choisir un candidat, mais plutôt à se prononcer sur une question d'ordre général portant sur la démocratie ou sur le processus électoral. Les jeunes électeurs pourront ensuite déposer eux-mêmes leur bulletin de vote dans une urne et pour prolonger leur expérience, mettez le mot expérience entre guillemets, ils recevront un tatouage temporaire sur lequel sera inscrit « J'ai voté ».
Wow!
Ce programme, conçu par Élections Québec, fait suite à un projet pilote mené à l'occasion des élections partielles tenues l'an dernier dans les circonscriptions de Gouin, à Montréal, et de Louis-Hébert, à Québec. L'expérience a été couronnée de succès grâce à la participation de plus d'un millier d'enfants. Élections Québec a donc décidé d'étendre ce programme à tout le Québec pour les élections générales qui se tiendront à l'automne. On veut vraiment créer un événement pour l'enfant, un événement qui d'abord l'amènera à voir son parent voter et ensuite à voter à son tour, explique Julie Saint-Arnaud-Drolet, porte-parole d'Élections Québec. L'objectif, c'est vraiment d'éveiller l'enfant à la démocratie, aux élections, pour lui donner le goût, une fois en âge de le faire, d'aller voter, oui, poursuit-elle. Élections Québec dit s'appuyer sur plusieurs études qui démontrent que la participation démocratique découle d'un processus d'apprentissage. Lorsque très tôt dans la vie de l'enfant, on commence à l'intéresser à ces questions-là, il aura une plus forte propension, une fois à l'âge adulte, à se prévaloir de son droit de vote. C'est toujours Mme Saint-Arnaud-Drolet qui parle. Les enfants qui fréquentent l'école primaire sont visés par l'initiative, mais tous les enfants, plus jeunes ou plus vieux, qui ont envie de vivre l'expérience pourront le faire. La compilation des votes se fera le soir même du scrutin. Aux élections partielles de 2017, la question inscrite sur le bulletin de vote des enfants était « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? » 4 choix de réponse étaient offerts. Exprimer tes idées, être différent, te faire respecter ou aider les autres. Autant dans Gouin que dans Louis-Hébert, les petits électeurs ont choisi en plus grand nombre aider les autres. Moi, ça me rassure, ça.
Oui.
Pour les adolescents...
C'est parce que c'était le dernier dans la liste.
Je comprends pas.
Dans la liste des choix, c'était le dernier en bas.
Oui, puis on vote pour le dernier?
Souvent, si c'est quelque chose qui nous plaît, puis c'est la chose qu'on retient, fait qu'on coche là.
Ah, ben c'est intéressant. Bon, pour les adolescents, Élections Québec a développé le programme « Électeurs en herbe ». En vertu de ce programme, les élèves des écoles secondaires participantes vivront en septembre une simulation électorale qui se terminera par un vote. Les noms des vrais candidats de leur circonscription seront apposés sur les bulletins de vote. Il faudra toutefois attendre après le 1er octobre pour connaître le résultat et ainsi savoir si les Québécois ont élu les candidats qui ont reçu l'appui de la prochaine génération d'électeurs. Alors voilà pour ce texte de Magdalene Boutros, qui était publié par la presse canadienne le 21 juillet dernier, et je complète par ce court texte qui s'appelle, dont le titre est « Mon gars, faut qu'on se parle ». Alors, c'est un texte de Kevin Beauregard, qui est alias Fier Père. Fier Père, il est père de deux garçons qui tentent, tant bien que mal, de transformer l'ordinaire en extraordinaire, et il ajoute « des fois, ça fonctionne ». On peut trouver ce texte sur le site naître-et-grandir.com et c'est daté du 20 juillet. Je ne savais pas vraiment quand ça allait arriver. Je me le suis souvent imaginé, à la limite même idéalisé, en modelant mon appréhension de ce que j'avais majoritairement vu à la télé. Mais c'est un soir après une partie de soccer que ça s'est produit pour vrai. Mon premier, là mon gars, faut qu'on se parle. Le problème n'était pas immense ni dramatique. Il dérangeait et n'écoutait pas les arbitres ni les coachs. Il s'amusait ferme, mais pas de la bonne façon. Alors, pas mort d'homme ici, mais à 6 ans, il y a des principes de base qui doivent être solidifiés. Je devais donc jongler avec le paradoxe suivant. C'est pas grave, mais c'est important. On s'est donc assis dans l'auto. Je me suis retournée vers lui et j'ai enclenché mon petit discours. Je voulais une discussion, pas une réprimande. Plus on discutait, plus je comprenais qu'on n'en est plus au stade où je dois lui expliquer que si tu ne brosses pas tes dents, tu vas avoir des caries, poire. J'étais au
tu
niveau...
Tu pourras pas manger de bonbons.
Surtout. Non, voilà. J'étais au niveau supérieur et c'était une première pour moi. Je sais bien que mon garçon n'est pas le plus sportif et je ne voulais pas qu'il croie que j'espérais de lui qu'il soit le meilleur, mais juste qu'il fasse de son mieux et qu'il suive les règles. On avait pas mal fait le tour. Il a soufflé dans ses joues. « Qu'est-ce qu'il y a, mon homme? Dis-moi à quoi tu penses. Il y a des choses que je comprends pas. C'est compliqué un peu ce que je te dis, hein? »« Ouais. Regarde, au fond, ce que j'espère, c'est que t'écoutes bien et que tu fasses de ton mieux. » On essaie de bien faire ça et après l'été, on verra si on se réinscrit l'an prochain. Deal? Papa? Quoi? Est-ce que ça existe des cours de scientifique? Moi, j'aime vraiment ça, le scientifique. On va regarder ça. Je pense que je connais déjà la réponse pour l'été prochain. D'après moi, la seule façon de l'intéresser au soccer, ce sera de lui faire analyser les matchs.
Oui.
Un texte de Kevin Beauregard, alias Fier Père, publié sur le site naître-et-grandir.com le 20 juillet.
C'est fun.
Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille. Comme un enfant devenu grand avec le temps. Viens, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César. Car les enfants défient les grands. Quand vient le temps de l'esclavage, le temps du long dressage, le temps de subir est passé. C'est le temps des sacrifices, se vante à bénéfice, le temps de prendre est arrivé. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille. Comme un enfant devenu grand avec le temps. Vient, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César. Car les enfants défient les grands. Quand vient le temps des révérences, le temps du long silence, le temps de se taire est passé. C'est le temps des muselières, se meurt dans la fourrière, le temps de mordre est arrivé. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille. Comme un enfant devenu grand. Avec le temps, vient un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César. Car les enfants défient les grands. Combien le temps, combien le temps.
À Canal M, Jacques Michel, un nouveau jour va se lever.
Un nouveau jour va se lever.
C'était bon cette chanson-là.
On aimait ça.
C'est encore bon.
Oui.
C'est un verre d'oreille, ça. On va chanter ça toute la
journée. Oh mon Dieu, avec. Je savais pas. Okay.
Oui, oui.
Monsieur Deslauriers, oui. Des ondes scolaires.
Oui, c'est un article pour toi, ça.
Fermé à la circulation. Ouais.
Presque. Oui, c'est, j'ai trouvé ça dans le journal Métro, lundi. C'est Dominique Cambron-Goulet, une personne qui doit avoir moins de 30 ans, j'imagine, qui a écrit ça. Et ça parle d'un projet pilote qui aurait lieu en Autriche, mais je vous en parle. Ça s'appelle « Des zones scolaires fermées aux automobiles ». Aux automobiles, une idée pour Montréal? Fermer la rue qui mène à une école primaire pour augmenter la sécurité des enfants et favoriser le transport actif. Voilà l'objectif d'un projet pilote qui verra le jour à Vienne, à l'automne. Un système déjà testé à Londres, qui pourrait bien trouver écho à Montréal. Mmh. À Vienne, environ un cinquième, 20% des enfants âgés de moins de 10 ans, ça veut dire le primaire, sont reconduits à l'école en voiture chaque matin.
Mmh. Je serais curieuse de connaître la proportion ici.
On va voir peut-être qu'il en parle. Nous avons lancé ce projet pilote pour convaincre les parents de laisser les enfants marcher ou prendre leur vélo. C'est pour la sécurité, mais aussi pour réduire la circulation, explique à Métro la responsable des dossiers piétons à l'agence de mobilité de la ville de Vienne, Petra Jens. Là, mon allemand est très déficient, c'est J-E-N-S. Pendant 2 mois, à la rentrée, entre 7h45 et 8h15, donc pendant une demi-heure, il sera interdit à tout véhicule de circuler sur la rue Verensgasse, qui mène à l'école primaire du même nom que je ne répéterai pas. Celle-ci compte environ 300 élèves. Nous avons mené des projets dans d'autres villes d'Autriche, mais nous voulions voir comment cela fonctionnerait dans un secteur dense et urbain, poursuit Mme Jens. À Salzbourg, par exemple, l'interdiction d'accéder à 6 écoles en voiture pendant une semaine l'an dernier a permis de réduire la congestion. Dans le quartier Camden, à Londres, un projet pilote mené cet hiver avec des bollards, empêchant la circulation le matin et le soir, a fait chuter de 50% le nombre d'enfants qui arrivent en voiture. Le premier mois, une clôture sera installée pour empêcher physiquement les voitures de passer. Le second mois, nous allons essayer sans la clôture pour savoir s'il y a une acceptabilité, nous indique Mme Jens. Après cette période de test, une évaluation sera faite pour savoir si ce modèle pourrait être appliqué à d'autres écoles primaires de la capitale autrichienne. Nous faisons cela pour des raisons de santé publique. Beaucoup d'enfants sont en danger de développer le diabète ou l'obésité parce qu'ils ne sont pas assez actifs. Mmh. Le chemin vers l'école pourrait couvrir le tiers de leur quotidienne d'activité physique recommandée, nous dit Mme Jens, qui est toujours la responsable du dossier des piétons à la ville de Vienne. L'administration de la mairesse Valérie Plante, là on revient chez nous, est ouverte à l'idée de lancer un projet pilote semblable à Montréal, soutient l'attaché de presse du comité exécutif Youssef Aman. Tout projet pour assurer la sécurité du réseau routier et encourager le transport actif représente un pas dans la bonne direction, souligne-t-il. Il faudrait travailler avec les commissions scolaires pour voir quelle rue pourrait servir de test. La chargée du programme Cycliste averti, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, de Vélo-Québec, Magali Bebron, qui a longtemps travaillé au projet Mon école, à pied, à vélo, croit que des initiatives comme celle de Vienne et de Londres vaudraient la peine d'être essayées à Montréal. Toutes les directions d'école s'entendent pour dire que la circulation autour des écoles est un problème. Beaucoup nous ont dit qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un parent qui vient de déposer son enfant et qui est en train de partir, illustre-t-elle. Mmh. Puis là, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à toutes les années où j'ai fait ça. Au Québec, seulement 32%, donc à peine un tiers, des enfants marchent ou prennent leur vélo pour se rendre à l'école, selon les plus récentes données. En 2011, il y a 7 ans, l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, concluait que le nombre d'enfants blessés au primaire lors des déplacements entre la maison et l'école pourrait augmenter à la suite de l'implantation de programmes de promotion de transport actif. Même une faible augmentation pourrait être néfaste, note ce rapport sur la sécurité des élèves du primaire. Depuis l'apparition de ce rapport, les accidents sur le chemin de l'école ont beaucoup baissé au Québec. De 2003 à 2007, près de 371 enfants étaient blessés annuellement sur le chemin de l'école, contre 84 par an en moyenne en 2013-2017. Selon une recherche menée l'an dernier par la Direction de la santé publique de Montréal, l'ajout de dos d'âne et de saillies de trottoir est efficace pour réduire le nombre de blessés. Toutefois, aucune étude n'a été menée par l'INSPQ pour connaître le lien entre le moyen de transport choisi et le nombre d'accidents sur le chemin de l'école. Mais même si nous n'avons pas les dernières données, je ne crois pas que les parts modales de déplacement à pied et à vélo effectuées par les élèves du primaire entre la maison et l'école aient beaucoup changé au cours des 10 ou 15 dernières années. En tout cas, certainement pas assez pour expliquer la diminution importante du nombre d'enfants blessés comme piétons et cyclistes, nous précise Michel Lavoie, médecin conseil. Bien que le bilan s'améliore, le sentiment d'insécurité demeure, constate Mme Bebrun. On va entendre des gens dire qu'ils ne vont pas laisser leur enfant aller à pied ou à vélo à l'école parce que c'est bien trop dangereux à cause de la circulation automobile. C'est un cercle vicieux parce qu'il y a trop de voitures, donc on ajoute sa propre voiture sur la route. La chargée de programme estime que la forte médiatisation des décès et des blessures graves à vélo occulte le fait que la tendance est à l'amélioration. Au-delà de la sécurité, bloquer une rue à la circulation pourrait avoir un impact, car cela a un impact sur la gestion d'horaire des parents. Si tout un périmètre n'était pas autorisé autour des écoles, ce serait moins avantageux d'y aller en auto, parce qu'il y aurait de toute façon un 5 minutes à faire à pied. C'était donc un article du journal Métro, ondes scolaires fermées.
Et restez donc avec nous après la pause. On vous parle d'avion, des bienfaits du ménage et d'un...
Vous écoutez les voix de service.
Thank you.
Voix de service, Catherine Ringer, comment va?
Ça va très bien, merci. Et vous?
On espère, très, très bien.
On espère que tout le monde va bien. Alors, re-bienvenue. Monique, on poursuit ou on recommence en parlant d'avion.
Oui, on s'envole. Alors, on si s'envole. Je vous posais la question, est-ce que vous vous sentiriez plus en sécurité avec un drone au volant, aux commandes de l'avion ou avec un pilote?
Oh, avec un pilote.
Ben,
avec un
il me semble que c'est le pilote automatique souvent qui conduit l'avion.
Alors, soyez bien attentifs.
D'accord.
Alors, c'est un article de Vincent Nouiriega pour la revue Science et Vie des mois de mars, avril, mai 2018. Et ça s'intitule « Des avions sans pilote seraient-ils plus fiables? » Une statistique circulerait avec insistance dans les milieux aéronautiques. Au cours de la dernière décennie, environ 70 % des accidents ont été liés à une erreur humaine. Il n'en faut pas plus pour que, à l'heure de la révolution des drones et d'événements spectaculaires comme le suicide du copilote de l'A320 de la Germanwings, des voix se fassent entendre et si les pilotes étaient désormais de trop. Et si ces professionnels au prestige indéniable, on voit tous ces hommes nobles, n'avaient plus leur place dans le cockpit, pour plus de sécurité, ne serait-il pas temps de monter à bord d'avions entièrement automatisés? Je vois Marie qui
manifeste son doute.
Comme les voitures.
Alors, ouais. Les différences d'aptitude entre les hommes et les ordinateurs sont connues. Les hommes ne peuvent gérer des événements qui se déroulent en moins de 100 millisecondes, alors qu'un algorithme est capable de prélever et de corriger des échantillons à haute fréquence. Un capteur sait également sentir les variations d'altitude d'un avion de quelques fractions de degrés, performance hors de portée d'un pilote. Et c'était bien d'attitude et non pas d'altitude, excusez-moi. Les pilotes humains sont en réalité très mauvais pour résoudre les équations différentielles nécessaires au calcul du point d'atterrissage en fonction de la vitesse, de l'altitude, du poids de l'appareil, des conditions de vent. Oui, ça fait pas mal d'éléments à considérer en situation d'urgence.
Le stress, oui.
Pour enfoncer le clou, on pourra aussi ajouter que les ordinateurs ne connaissent pas de problèmes de vigilance, de mémoire ou de fatigue et ne sont sujets ni à la panique, ni au stress. Ils ne violent pas non plus les règles et ne se suicident pas. Pourtant, rien ne change. Les pilotes sont toujours aux commandes. Connus pour leur conservatisme à toute épreuve, les autorités aéronautiques ignorent-elles l'écart flagrant entre l'homme et la machine? En tout cas, dans les laboratoires, certains chercheurs travaillent dans le sens d'une automatisation complète des vols. Existera-t-il donc bientôt des avions de ligne sans pilote? On ravale un peu. Pour répondre à cette question, il ne faut pas oublier que les maigres statistiques existant sur les drones sont assez épouvantables. Bon, alors l'autre côté de la médaille. L'armée américaine aurait recensé, depuis 2001, plus de 400 crashs de ces drones militaires pour toutes sortes de raisons techniques. Selon différentes évaluations, les appareils sans pilote à bord et sans passager, puisqu'on fait des tests.
Rassurons-nous.
Rassurons-nous, en effet, connaîtrait un taux d'accident 350 à 5000 fois plus élevé que l'aviation commerciale. Les situations critiques où l'informatique ne sait pas comment réagir ne sont donc pas si rares. Le milieu de l'aéronautique parle trop peu des nombreux cas où l'humain rattrape des situations périlleuses, car seuls les hommes sont capables de raisonner en univers incertain. Face à des situations imprévues par les concepteurs de l'avion, un pilote en chair et en os n'a pas son pareil pour faire preuve d'initiative, d'adaptation et de créativité. Bref, pour agir hors des procédures prescrites par l'automatisation. La statistique des 70 % du début, n'est-ce pas, où il y avait des erreurs humaines, perd alors tout son sens. Les erreurs humaines pointées du doigt dans les crashs ne justifient pas une automatisation plus poussée. Le besoin actuel est plutôt de repenser l'interface entre l'homme et la machine. Il y aura donc encore un pilote dans l'avion, au moins pour les 30 années à venir. Et toujours la possibilité pour lui d'inventer une solution à un problème inattendu, comme le commandant Sullenberger, atterrissant sur l'Hudson après que les deux moteurs de son A320 eurent aspiré des oies sauvages. Alors, c'était une première partie donc de l'article de Vincent Nouy-Riega pour Science et Vie. Et je vais laisser la parole
à notre invité
Francis. Voilà, je lui cède.
Pour la suite.
Pour la suite sur les avions, mais dans un tout autre ordre d'idées.
Alors, Francis, on vous écoute.
Merci. Néanmoins, cette question que nous allons traiter s'adresse aussi bien, concerne aussi bien les avions avec pilote que sans pilote. Alors, la question, c'est, tous les jets laissent-ils une traînée derrière eux? Non. Certains avions laissent un ciel immaculé derrière eux. Mais il n'y a aucun mystère là-dedans. Bien au contraire. L'explication des traînées blanches laissées ou non par les avions dans leur sillage est en effet scientifiquement prosaïque. Ces traces se créent uniquement dans des conditions particulières de température et d'humidité qui, si elles ne sont pas réunies, ne permettent pas de laisser un sillage. Celui-ci se forme essentiellement par condensation de la vapeur d'eau libérée par les moteurs de l'avion sur des noyaux de congélation. Ces conditions se rencontrent fréquemment dans la zone de vol habituelle des avions de croisière, soit environ 11 000 mètres d'altitude, là où la température peut atteindre moins 60 degrés Celsius. Et la pression, pour les scientifiques, 500 hectopascales. Ne me demandez pas ce que c'est. Depuis le début des années 50, ce phénomène ne cache donc aucun complot. Largage chimique ou armes biologiques, non. Que certains persistent à voir, continuent à voir, dans ces drôles de sillages.
Wow! Intéressant! Alors, on saura maintenant, quand on voit ces traînées, que ce sont des conditions particulières qui sont réunies. Merci, Francis.
Bienvenue.
Sachez que la réussite passe par le ménage. C'est un texte de Marie-Ève Lambert, publié dans La Voix de l'Est, c'est un petit journal de quartier, le 13 juillet dernier. Paraît que les ados de 13 ans, ça s'emmerde l'été. Je n'en suis pas encore là, je étant Marie-Ève Lambert, avec mes enfants toujours en âge de s'émerveiller devant un simple papillon, mais j'ai entendu les échos de bien des parents. Trop vieux pour aller au camp de jour, trop jeune pour travailler légalement, paraîtrait que ces êtres en transition ne savent pas quoi faire de leur corps, en pleine mutation, une fois le dernier examen remis. Personnellement, je me souviens très bien de l'été de mes 13 ans. C'était à une autre époque, j'en conviens. Les écrans ne s'étaient pas encore multipliés dans les foyers, imaginez. Mais cet été-là, croyez-moi, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Cet été-là, j'ai appris à me débrouiller. Ma mère a subi une opération qui l'a clouée au lit pendant 6 longues semaines. Je suis devenue, par la force des choses, maîtresse de maison intérimaire. Je me suis retrouvée chef de famille, directrice du département des tâches ménagères et présidente du clan fraternel. J'ai apprivoisé les fourneaux, fait connaissance avec le lave-vaisselle, découvert les secrets de la laveuse et fraternisé avec l'aspirateur. En parallèle, j'ai également développé de solides compétences en gestion de crise avec plusieurs S auprès de mes trois frères plus jeunes ainsi qu'un certain talent de géo.
Ça aurait pris un drone.
Je n'ai obtenu aucun diplôme à la fin de ce contrat imposé, encore moins une rémunération au-delà d'un simple merci venant du fond du cœur de ma chère maman. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis ressortie grandie de cette épreuve. Et vous savez ce que je retiens de cette expérience qui m'a propulsée dans le monde des grands, outre les très utiles connaissances de la gestion du quotidien? C'est le souvenir que je n'ai pas détesté ça du tout. J'irais même jusqu'à dire que j'ai passé du bon temps. Si je vous parle de tout ça, c'est que je suis tombée par hasard sur un article intitulé « Donner des corvées à vos enfants contribue à leur réussite ». Selon une étude de l'Université Harvard rendue publique il y a quelques mois, les enfants qui aident le plus à la maison sont ceux qui réussissent le mieux dans la vie. Le succès professionnel est lié aux tâches ménagères réalisées lorsqu'on est encore enfant, affirme cette étude. Car ménage, rangement et préparation des repas développent leur sens des responsabilités, leur apprennent à faire des choses même quand ils n'en ont pas envie et leur enseignent à organiser leur temps notamment. Chaque coup de balai est, en quelque sorte, un pas de plus vers l'obtention d'un MBA. Bon, on exagère peut-être un peu. Pour moi qui le dis, là, c'était
écrit. En fait, la question à se poser, c'est les MBA qui n'ont pas fait de ménage, comment ils ont fait? Mais en fait.
Dans cette étude qui s'étend sur 75 ans, les chercheurs ont identifié deux facteurs essentiels au bonheur et au succès. Le premier, l'amour. Le second, l'éthique de travail. Et la meilleure façon d'apprendre une éthique de travail, selon les expériences des 724 répondants de l'étude, et parmi eux se trouvent notamment le président Kennedy et l'ancien rédacteur en chef du Washington Post, Ben Bradlee. Donc, on dit la meilleure façon d'apprendre une éthique de travail, ce sont les tâches ménagères effectuées par les enfants. En sortant les poubelles ou en faisant le lavage, les enfants réalisent que dans la vie, ils doivent travailler. En lui confiant ses corvées, vous lui montrez que certains travaux doivent être faits. Vous lui apprenez le sens du travail d'équipe et de la coopération, fait valoir Julie Lithcott-Hames, auteure du best-seller « Comment éduquer un adulte ». Autonomie, indépendance et débrouillardise s'en trouvent ainsi renforcées, sans compter que les tâches qu'ils font, c'est du travail en moins pour nous, parents, n'est-ce pas? Attends, t'es sérieuse, là? Et négocier, on s'excuse, Siri vient d'embarquer sur mon texte, voilà, je suis revenue. Attends, t'es sérieuse, là? Et négocier la crise qui survient immanquablement à la simple demande de vider la vaisselle? Argumenter jusqu'à ce que mort s'en suive si on ose ordonner de ranger leur chambre, c'est pas du travail, ça? Vous entends-je déjà penser? Et devoir recommencer parce qu'ils ne l'auront pas fait comme il faut? As-tu déjà admiré une salle de bain nettoyée par un kid de 10 ans? Vrai! J'ai moi aussi envie de pleurer juste à imaginer comment ma demande de ranger ses jouets sera reçue par ma fille de 5 ans. Et que dire du résultat de cette demande obtenue à grands coups d'argumentation digne des meilleurs avocats en ville, d'excuses bidons et de larmes de crocodile? Mais pour éduquer, il faut apprendre à déléguer. Il faut, comme parent, apprendre à faire avec. Sinon, accepter un job effectué so-so par quelqu'un de moins expérimenté, mais qui gagnera en savoir-faire un peu plus chaque jour. Comme le dit si bien Julie Lithcott-Hames, en leur demandant de faire certaines tâches, les enfants apprennent qu'ils doivent contribuer au travail de la maison, qu'il ne s'agit pas seulement de leur petite personne et de ce qu'ils veulent dans le moment. Partager les tâches ménagères, ça sert aussi à ça, à développer son sentiment d'appartenance à la famille, à se sentir utile et compétent, à être sensible aux valeurs d'entraide et de solidarité. C'est ce que je vais dire à mon plus jeune, oui, une fois revenu à la maison.
On va lui transmettre l'article.
Alors, la dernière phrase, des qualités essentielles, non seulement dans le monde du travail, mais dans la société en général. Voilà pour le texte de Marie-Ève Lambert, publié dans La Voix de l'Est, le 13 juillet. Monsieur Deslauriers, le rôle d'un ballon.
Oui.
Oui, l'importance d'un ballon.
L'importance d'un ballon, oui. Et des conséquences insoupçonnées de jouer au ballon. C'est le sujet de cette chronique que j'ai lue ce matin. Je n'étais même pas levé, en fait. sous la plume de Mylène Moisan, dans le soleil d'aujourd'hui, ça s'appelle « Autour d'un ballon ». Je le croisais au travail, il me saluait. À force de me faire dire bonjour, je lui ai parlé. Samuel et Francis, pas toi Francis, un autre, sont devenus amis. Francis Guénette travaille chez Olimel depuis 8 ans. Samuel Riche est arrivé au printemps. Il est arrivé avec sa femme qui travaille chez Olimel aussi, avec une trentaine de petits nouveaux. Ils ont quitté l'île Maurice pour la Beauce. Pénurie d'employés oblige, l'entreprise s'est tournée vers Madagascar et l'île Maurice pour aller chercher du renfort pour faire tourner ses usines. En passant par une agence de recrutement sur place, Olimel a tout organisé, payé leur voyage jusqu'ici, leur a même trouvé des logements. Ça, c'est une première étape. La paperasse, la job. Et c'est là que Francis entre en jeu. Quand il renvoie le bonjour à Samuel, quand ils se mettent à jaser, à prendre leur pause ensemble sur leur quart de soir dans le département de Marquis. Marquis, c'est le contremaître. Samuel a demandé à Francis ce qu'il y avait à faire dans le coin les fins de semaine. Bon, là, on est en Beauce, là. Hein?
Oui, oui.
Il voulait savoir s'il y avait du soccer ici. Je lui ai dit qu'en Beauce, on était plus hockey. Mais plus on en discutait, plus on se disait que ça pourrait être une bonne idée de partir ça, le soccer. C'était en mai. Ils se sont mis à regarder les terrains qui pourraient être libres à Sainte-Marie. Ils aimaient bien ceux derrière le casse-croûte chez Dan. Il y a un entrepreneur qui a entendu parler du projet. Il a payé la location pour l'été. Il s'est arrangé avec la ville. Il a voulu rester discret. Le mot s'est passé aussi chez Olimel. Les gens de l'île Maurice venaient nous voir et nous demandaient « Quand est-ce qu'on commence? » Ça a commencé en juin. Le rendez-vous a lieu le dimanche de 15h à 17h. On a mis ça à cette heure-là parce qu'il y en a qui vont à l'église. Ça a donné mieux à tout le monde comme ça. Les gens ne s'annoncent pas. Ils viennent s'ils peuvent. Les équipes sont faites juste avant le match. On a déjà été 35. Chaque joueur paye 3 $. Ça couvre les dépenses. Ils ont pu acheter des dossards et des ballons. Il y a aussi des travailleurs de Madagascar, une fille du Mexique et un gars du Congo, entre autres. C'est juste des gens d'Olimel au début. C'était juste des gens d'Olimel au début, mais c'est ouvert à tout le monde. Nous autres, on est nés avec une rondelle et eux avec un ballon. Ils nous montrent comment jouer, ils nous enseignent. Ils m'ont montré à être un gardien. Francis se débrouille très bien, même quand le tir vient de Christopher. Christopher était dans la sélection nationale de l'île Maurice.
Rien de moins.
Quand il est parti pour ici, il a laissé ses choses de soccer. Il ne pensait plus s'en servir. Selon Francis, il y a des Québécois qui jouent aussi, comme son ami Steven. On s'amuse, ça facilite la bonne entente, ça développe la confiance. Il y a un esprit d'équipe qui s'installe au travail, de la bonne humeur, puis ils s'intègrent. Plus ils s'intègrent, plus ils sont bien. Ensemble, ils vont faire une collecte d'argent pour le fils de Steven qui a besoin d'un véhicule adapté. Je suis allé les voir, là on parle de Mylène Moisan. Je suis allé les voir un samedi avant midi. Ils avaient déplacé le match parce qu'ils avaient organisé un grand festin mauricien le lendemain. Ils étaient plus d'une vingtaine. On formait les équipes avant de commencer. J'étais avec mes gars, deux fans finis de soccer. Ils en ont mis un dans chaque équipe. Les deux ont failli marquer. Même Marquis est venu faire un tour. Il est resté une bonne heure sur le bord du terrain pour jaser. Quand j'en ai eu fini de discuter avec Francis, il est allé remplacer Samuel sur le jeu. Je voulais lui parler qu'il me raconte c'est comment sa nouvelle vie. Il est arrivé avec tous les autres le 16 mars. Il y avait de la neige. Et du froid. Un froid de mars, mais quand même. Ça fait 5 mois qu'il est ici. Il n'en revient pas comme c'est beau, comme on est sympathique. Il avait un bon boulot à l'île Maurice. Je travaillais dans l'aluminium. Sa femme tenait un petit commerce. Elle faisait de l'alouda, une boisson à base de lait qui ressemble au bubble tea. Il a promis de m'y faire goûter. Ils ont 2 enfants, une fille de 11 ans et un gars de 7 ans. On avait de la misère à joindre les 2 bouts. Quand l'offre d'emploi d'Olimel s'est présentée, ils ont sauté sur l'occasion d'avoir une vie meilleure. Ils travaillent au neck bones, à désosser des coups de porc. Il manque de monde ici pour faire ça. C'est difficile au début, mais on s'habitue vite. Les enfants sont restés à l'île Maurice avec ses parents. L'idée est qu'ils viennent les rejoindre dans 2 ans quand Samuel et sa femme auront leur résidence permanente. Ils ne se verront pas d'ici là. Francis, lui, est toujours partant pour donner un coup de main. La semaine passée, j'en ai emmené trois à leur examen de conduite. J'en ai conduit 2 au Festival d'été de Québec, au spectacle de Shawn Mendes. J'ai trouvé 2 passes. Je suis allé avec Jerry et Christopher. Ils n'en revenaient pas. Tu aurais dû voir leurs yeux. Il fallait voir les siens quand ils me racontaient ça. J'aime ça, partager, rendre service. C'est dans ma nature. J'aime quand les gens s'entendent bien. Lui et Samuel ont de belles ambitions pour l'équipe. On aimerait bien ça avoir des uniformes, avoir un nom, participer à des tournois. Avec les 3 $ que les gens payent chaque dimanche, on regarde pour louer un terrain intérieur pour pouvoir continuer à jouer pendant l'hiver. On aura beau faire des thèses sur l'intégration des immigrants, il n'y a pas grand-chose qui accote un « bonjour » et un simple ballon.
Merci, c'est toujours beau, les textes de Mylène Moisan, c'est toujours touchant.
Alors, vous pouvez se trouver ça dans la presse et dans le soleil d'aujourd'hui. C'est une chronique qui s'appelle « Autour d'un ballon ».
Wow! Alors, Monique, une capsule linguistique.
Oui, ça fait longtemps que je la traîne, en fait.
Ben oui.
Alors, votre voiture est-elle bonne pour la scrap?
Bonne question.
Ben... On en a eu une comme ça il n'y a pas longtemps.
Oui, mais c'est le mot scrap, en fait, qu'on peut remettre en question. Selon le contexte, on peut traduire le mot anglais scrapyard par cimetière d'auto ou le parc à ferraille. Alors, évidemment, cours à scrap. On n'est pas loin de l'anglicisme qu'il faut éviter. Mmh. Alors, puis on n'est pas bon pour la scrap non plus. Alors, il existe au moins 3 tournures équivalentes en français correct. Alors, on dit, par exemple, elle est bonne, la voiture est bonne, ou le char, non, pas le char, la voiture est bonne pour la ferraille, elle est bonne à mettre à la ferraille, ou dans un langage, semble-t-il, encore dans une langue plus familière, qu'elle est bonne pour la casse.
Ah bon, d'accord.
Okay.
Ah, moins ici qu'ailleurs.
Moins ici qu'ailleurs, mais bon, oui, c'est
on le va garder la ferraille.
Le familier était un peu à remettre en question.
Ah, voilà.
Mais il faut dire aussi le parc à ferraille et non pas au dépotoir.
Et non pas la cour à scrap.
Non, parce que le dépotoir, c'est pour l'enfouissement des déchets ménagers.
Voilà.
Donc, en résumé, il faut scraper le mot scrap.
Et voilà, c'est ça, Francis. D'accord, merci.
C'est une belle conclusion, ça.
Est-ce que vous connaissez une appli? Je connais une appli pour lire en vacances. Ça s'appelle Mini Minus. C'est une nouvelle application d'histoire illustrée destinée aux enfants de 3 à 8 ans. C'est lancé par une société montréalaise. C'est une appli qui propose des récits inédits, sans musique ni voix. Ça coûte 3 $ par mois. Fait à souligner, les histoires sont offertes en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, en portugais. Et c'est possible de changer de langue à tout moment. Je trouve ça intéressant.
Mm-hmm. Oui.
Moi, de mon côté, des lasers serviront à protéger les usagers de Bixi la nuit. Non, il ne s'agit pas ici de science-fiction.
Ah oui, j'ai vu
ça. Le système de vélo en libre-service mène un projet pilote pour rendre ses montures plus visibles dans l'obscurité. Bixi Montréal a décidé de tester un nouveau dispositif, le Laser Light, créé par l'entreprise britannique Beryl. Celui-ci permet de projeter un logo de vélo vert au sol 5 mètres devant un cycliste. Il prévient ainsi les autres usagers de la route de sa présence, permettant de réduire l'impact des angles morts sur les véhicules routiers. L'idée, c'est de rendre le vélo plus prévisible pour les piétons et plus visible pour les gens dans les gros véhicules.
Alors, je vous laisse avec un mot d'enfant. Cactus, selon Karim, 9 ans, c'est une espèce de grosse courge hérissée de piquants sur quoi tombent les parachutistes qui n'ont pas de chance. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie Maurice Bolduc pour la mise en onde. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve, en fait, on vous retrouve presque. Monique vous retrouve la semaine prochaine
oui,
pour
Monique
tout le mois
d'août. Sera là. Oui.
Oui. Et nous, Yvan et moi, on revient éventuellement ensemble.